les candidats qui décident de contester, là.
Oui.
C'est la loi qui prévoit loi. Que tout va être compté.
C'est quand c'est un millième.
Moins d'un millième. Moins d'un millième du vote exprimé.
Ouais. Exactement. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est une quarantaine de votes. C'est à Terrebonne, là.
C'est moins de 40, en fin de compte.
C'est moins de 40.
Moins de 40, en fin de compte.
C'est à Terrebonne, à la base, c'est la candidate libérale qui avait gagné. Et là, finalement, c'est la candidate bloquiste. Mais, parce que, dans ton cas, est-ce que ça avait été,
J'avais un contrat judiciaire dans mon cas, avec un juge qui avait passé quasiment une semaine et demie ici, à Rivière-du-Loup.
Ça fonctionne,
tous les votes. Il faut que les deux candidats qui sont concernés, dont le résultat n'est pas complètement certain, trouvent un certain nombre de bénévoles. Puis, un certain nombre, c'est 10, 12, 15, là, c'est pas deux, là. Okay? Qui vont accepter d'être là pendant plusieurs jours. Il y a réouverture des boîtes de vote.
De toutes les boîtes.
De toutes les boîtes.
Puis là, on prend chaque
vote. Et là, tout le monde s'assure que ce vote-là, il est bon. Puis là, quand un vote est contesté, mettons, quelqu'un dit, ouais, le X a débordé sur l'autre case. Il faut le montrer au juge. Et c'est le juge qui va trancher.
Ah, ouais.
Et ça permet à la fin de dire, ben là.
Donc, chaque bulletin, on le prend. Ça passe dans les mains des bénévoles de François Lapointe, de Bernard Généreux.
Sur une table, il y a un bénévole d'un des candidats puis un bénévole de l'autre candidat. On leur ramène une boîte. Ils ouvrent la boîte. Ils sortent les votes un à un. Ils disent, OK, ça, c'est beau, on le remet dans le lot de ceux qui sont acceptés.
Ouais.
Puis là, à un moment donné, il y en a un des deux qui fait, ah non, là, il y a un X qui déborde. Mais là, ce qui est différent, c'est que tu as un juge qui va vérifier chaque contestation de chaque vote. C'est lui qui va trancher.
OK.
Fait que c'est pour ça que moi, ça avait commencé à plus 5, ça finit à plus 9. Il y avait eu certains votes qui avaient été contestés dans mon cas qui étaient, c'est pas justifié selon le juge.
Donc, des fois, le crochet dépasse un petit peu, là, puis on s'entend que c'est
Il y a quelqu'un clair. Quelque part qui avait contesté le vote, puis qu'il avait réussi le soir de l'élection à faire tasser ce vote-là. Puis là, le juge peut dire, non, ça c'est trop sévère, ça, basé sur telle réglementation, je remets ce vote-là comme valide.
OK. Donc, c'est très, très long.
C'est long.
Et c'est stressant.
C'est toute une aventure à vivre.
Ouais.
C'est toute une aventure à vivre. On n'est pas nombreux à avoir vécu ça, même dans l'histoire du Canada. Là.
Ah, mais c'est arrivé. Ce qui est particulier, c'est que c'est arrivé deux fois, dans deux élections consécutives ici, parce que l'élection suivante,
les libéraux étaient à 2,60.
L'écart était plus important.
C'est en bas de... C'est là,
dans ce cas-ci, je pense qu'avec Marie-Josée Normand, on avait fait la demande.
Parce que c'était pas un automatisme. La candidate libérale aurait pu dire, OK, de base, il n'y a pas de cas historique où une différence, je pense, d'au-dessus de 60-90 votes a fait renverser le vote.
Ouais.
Cependant, quand tu tombes en bas de 30... Puis là, ça va être stressant pour eux, parce qu'ils sont à 30 quelques, là. Il y a eu des précédents où le vote a été...
Ça a changé.
Carrément inversé en bout. Ouais. Ça a fini à plus, ça a parti plus 30 pour un, puis ça a fini à la toute fin, plus 10 pour l'autre, mettons.
Ouais. Donc, il y a un petit stress. Ça peut arriver.
Ça, oui. Mais, tu sais, si c'était une marge encore plus mince, là, 10, 11 votes. Ouais. Là, il y a une réelle chance. Là, je te dirais, il y a une chance sur peut-être quoi? Une chance sur 50?
Oui, c'est
mince quand même.
C'est mince. François, tu voulais revenir tout d'abord. On va parler du local, mais d'abord, analyse, on va dire nationale.
Oui, c'est toute une élection. Hein? Le soir, on s'est quitté. Les résultats n'étaient pas encore fixés. Il y a clairement un glissement vers un quasi-bipartisme. Comme on n'a pas vu, je pense, depuis les années 60. Moi, j'ai fait une erreur de projection. J'aimerais ça le dire. Il y a une affaire que j'avais affirmée. C'est que si le Parti conservateur se maintenait deuxième dans les intentions de vote, il aurait perdu quelques points pour le Parti populaire. Et ça n'a pas eu lieu.
Non, parce que le Parti populaire est très, très loin.
Le Parti populaire est resté en bas de 1%. Pourtant, je sais que ces gens-là existent. Les je sais pas comment les qualifier. Moi, j'ai un paquet de gens qui m'envoient des dossiers pour dire que...
Des particuliers.
Oui, que Mark Carney va tous nous rendre des esclaves dans deux ans. T'sais. Bon, ils sont quand même un bon 8%, donc, je pense, des gens. Puis, ils sont soit qu'ils n'ont pas été votés, soit qu'ils sont restés pour un dossier ou l'autre, sont restés solidaires. À M. Poilievre. J'aurais jamais cru voir ça. Ça, c'est étonnant. L'autre aspect qui a fait qui a renversé la soirée, c'est les résultats beaucoup en Ontario. Si ça s'était maintenu un peu comme les Maritimes, beaucoup au Québec, on aurait sûrement un gouvernement majoritaire. C'est l'Ontario qui a brisé cette espèce de vaguelette-là, qui fait qu'on a un gouvernement quasi, tu sais, à quatre.
Parce que dans ce cas-ci, on peut même pas parler d'une vague, là. T'as utilisé le bon terme, une vaguelette. Là.
Ben c'était leur objectif, hein. C'était le plan. Je connais encore assez de gens pour savoir que c'était ça. C'était le but, c'était d'avoir une petite vaguelette, mais partout dans le pays. Mm. Donc un petit peu mieux partout. Fait que là, tu te ramasses majoritaire, mettons, à 176, quelque chose comme ça. C'était la stratégie qui était envisagée par le Parti libéral. Ben la vaguelette a marché correct au Québec. Elle a marché pas pire dans l'Ouest. Les libéraux ont eu des meilleurs résultats, incluant les prairies. Ils sont mieux sortis. C'est l'Ontario que ça s'est joué bizarre. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de penser, je recule dans le temps, à M. Jack Layton. Jack, quand on était en Ontario, je l'accompagnais beaucoup, moi. Puis des fois, c'était des campagnes nationales, tout. Jack, on était en Ontario, il exigeait tout le temps de passer un temps fou avec les animateurs de droite. Contre, parfois, les décisions de ses propres consultants. Il disait, non, lui, là, c'est un animateur de droite, là, je vais aller m'astiner avec au micro pendant 40 minutes. Puis les gens disaient, mais tu perds ton temps. Il disait, non. Il disait, vous comprenez pas l'Ontario. En Ontario, les gens, il y a une masse critique de gens, là, 15-20% du monde, ils votent pas libéral. Soit, c'est du monde qui sont tannés, qui sont fâchés. Ils sont allés travailler fort, puis pas être capable de se payer un REER. Travailler fort, avoir de la misère à se payer une maison. OK? Et là, soit qu'ils sont sensibles aux conservateurs qui disent, mais c'est à cause du gros État. Puis c'est à cause qu'il y a trop de fonctionnaires. Puis c'est bon. Ou ils sont sensibles à la gauche qui dit, ben c'est à cause des gens très, très riches qui veulent absolument faire plus de profits puis qui te laissent pas de place à toi pour vivre.
Ouais.
Alors, ils vont d'un à l'autre et ils passent pas par la partie libérale. Alors, je pensais à Jack parce que c'est exactement ce qui s'est produit en Ontario. L'effondrement du NPD, ça a pas servi aux libéraux, un petit peu aux libéraux en termes de pourcentage de vote, mais ça a servi un peu plus aux conservateurs.
Ouais.
Layton avait complètement compris le pouls de cette province-là à l'époque. Et ça, je sais pas si... Et ça, c'est, ils ont une leçon à prendre pour le Parti libéral. Il va falloir qu'ils soient... Tu sais, souvent, j'ai le mot en anglais, excuse-moi, Kevin, le messaging. Ouais. Le messaging libéral reste un petit peu... Ça, c'est le même défaut que les démocrates aux États-Unis. Reste un petit peu implicite. Tu sais, par exemple, il y a une crise. Je donne un exemple. Il y a une crise. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes de moins de 35 ans ont tendance à être fâchés, puis ils votent... et ça, c'est vrai. Ils votent plus conservateurs.
Oui, plus de droite.
Un peu plus de droite. Okay? Il y a une tendance qui est plus vers ça. En particulier chez les hommes de
30 ans. Oui, c'est documenté.
C'est documenté. Ouais. Je l'invente pas maintenant.
Non.
Alors, quand M. Carney parle de faire le plus grand chantier de construction de maisons de l'histoire du Canada depuis 1949, il fait pas le lien de dire, en passant, là, vous, là, mes braves garçons capables de faire de la construction, vous êtes importants pour nous. Il en parle en se disant, ils vont comprendre.
Ouais.
C'est comme sous-entendu. Le Parti conservateur, lui, son messaging, il n'y a aucun problème de s'adresser à l'identitaire.
Ouais.
De dire, moi, je fais ce politique-là parce que toi, Kevin, t'es tanné.
Ouais, il est nomme, presque.
Toi, il y a telle affaire que t'es tanné, là. Ouais. C'est pour ça que je fais ça.
Puis il est nomme. Il a même créé un personnage fictif là, qu'on commence à connaître, là, un monsieur du Saguenay. Il l'a créé, cette personne.
Il va même incarner.
Ouais.
Il va dire, toi qui es tanné de telle affaire.
Oui, puis les conservateurs, il faut leur donner, ils sont forts là-dessus. Là. Dans ce type de message-là, très, très, très ciblé à l'endroit d'une tranche de l'électorat, on est assez forts là-dessus.
Mais je pense qu'il y a des gens, puis beaucoup, puis encore là, matin, ils sont sortis, pas je te vis, ils ont sorti les autres chiffres, là, vraiment,
j'ai vu
sociologiques.
Ouais,
s'il y a plus d'universités, plus de cégeps, il y a plus de votes pour les libéraux.
Ouais.
Si c'est plus des gens qui se rendent... les régions où les gens se rendent au travail en auto, en tendance, en moyenne au Canada, ont plus voté conservateur. C'est vraiment des impressions. Fait que c'est pas... ces gens-là, ils sont... Il faut comprendre, quand t'as trois enfants... Puis tu fais, je vais lancer un chiffre, tu fais 57 000 par année. Puis il faut que tu fasses 30 minutes de route pour aller travailler à ta shop. T'es juste occupé. Mmh. Comprends-tu? Tu peux être deux fois plus brillant que n'importe qui l'autre bord de la rue, là. C'est pas. Mais t'es juste débordé. Fait que t'as pas le temps quand on te fait un message, qu'on te fasse un message où on te demande de prendre le temps de réfléchir à ce que ça veut dire par en dessous.
On veut qu'on te guide. On veut être guidé.
T'as deux minutes dans ta journée pour te faire parler de quelque chose d'autre que ta longue liste d'affaires à faire, puis la petite à aller chercher, puis le patio à réparer, puis le 8-9 heures à l'ouvrage. Puis quand on te parle, il faut que tu comprennes l'objectif de la patente.
Mm.
Et c'est ça, je pense, qui va devoir beaucoup être amélioré du côté des libéraux pour les prochaines fois. J'espère qu'ils vont comprendre de ça. Le Bloc, on en parle un peu quand même. Ça a probablement été une des journées les plus difficiles de l'histoire du Bloc. Ils ont, monsieur, plus que ça, la semaine difficile. Le chef du bloc, M. Blanchet, lance l'idée de, ben, revenez vers nous, de toute façon, on comprend votre peur de Trump, on va travailler avec M. Carney. Ça semblait avoir marché vers 10h15, le soir du vote. Il semblait se retrouver potentiellement avec, visiblement, mathématiquement, la balance du pouvoir. Enfin, fin de soirée, le matin, ça lui glisse des mains, le nombre de députés élus libéraux augmente, puis le NPD se maintient avec une petite quantité de 7, mais pas besoin de faire beaucoup de mathématiques pour savoir qu'il y en manque 4 qui sont 7, fait que
la balance du pouvoir, c'est le NPD,
est pas dans les mains du Bloc québécois. Le lendemain, on a des réactions extrêmement émotives. J'ai rarement vu des réactions si émotives de la part du leadership des souverainistes du PQ provinciaux.
Ouais.
Monsieur PSPP était dur, là.
Lui qui voulait pas s'impliquer dans la campagne électorale, finalement, il a été très, très dur à l'endroit du petit frère.
L'espèce de petite vague nationaliste canadienne pour monsieur Paul-Saint-Pierre, par le nom, c'est rough.
Bonne nouvelle.
C'est rough. En contrepartie, le PQ, corrige-moi, c'est pas écroulé dans les sondages depuis 3 semaines.
On se maintient.
Mais ça reste que c'est un mouvement de fond qui concorde pas pantoute avec ce que lui veut faire dans les prochaines années, mais vraiment pas, tu sais.
Oh, ouais.
Fait qu'on sent une grosse tension. J'ai jamais vu ça. Il a carrément dit au Bloc québécois, là, si tu veux que je te tolère au fédéral, tu vas dire le mot souveraineté souvent. Parce que sinon, là, ça n'a pas de... C'est carrément ce qu'il a communiqué. Ouais. Il a carrément dicté à l'autre partie, voici pourquoi je suis fâché, puis t'es mieux d'en tenir compte pour la suite. C'est pas comme ça qu'il l'a formulé.
Mais c'est comme ça qu'on
doit l'interpréter. Mais c'est ce que ça voulait dire.
Ouais, ouais.
J'ai rarement vu ça. Et il y a un phénomène un petit peu similaire. Ça a été une élection très, très dure. Hein? En Ontario, où t'as des conservateurs qui sont en soutien à M. Poilievre, qui sont furieux contre les conservateurs provinciaux.
De Doug Ford. Ouais.
Puis t'as Doug Ford qui dit c'est correct, mais qui dit pas, je m'excuse, en tout cas.
Parce que Doug Ford, t'avais l'impression pendant la campagne qu'il penchait beaucoup plus vers Mark Carney que vers Pierre Poilievre. Et ça
pas juste l'impression.
Ouais,
pas juste l'impression. Il y a ça, Monsieur Poilievre a fait une erreur majeure qui va peut-être, les gens ont tendance à dire qu'il va rester, je suis pas certain. Parce qu'il a fait une erreur majeure, que moi j'ai vu, j'ai vu Mulcair, il était au téléphone tous les soirs à travailler leur réseau. Tous les soirs. On travaillait comme des fous, là. Puis il était rendu 9h, Tom s'enfermait dans son bureau, puis il appelait du monde en fonction des décalages horaires.
Ouais,
puis là, il parlait à des anciens ministres provinciaux de telle place, puis tout le temps. On a compris que M. Poilievre ne fait pas ça. Et que soudainement, quand la campagne elle était plus difficile la deuxième semaine, qu'il voyait que ses chiffres stagnaient, que ça montait pas, il a commencé à appeler des gens comme M. Charest. C'est pas comme ça que ça marche.
Ouais, il aurait fallu qu'il le fasse avant.
Ben avant, tu fais ton résultat.
Ça envoyait plus le signal qu'on est dans le trouble.
On est dans le trouble. Ouais. Au lieu d'un signal de dire, ça fait des années que je me réseaute auprès de vous, messieurs, mesdames, personne importante dans le réseau de la pensée conservatrice au Canada. Puis là, je vous dis, j'ai besoin de vous pour devenir premier ministre. C'est ça que ça, tu sais, quand tu maintiens ton réseau, c'est ça que ça envoie comme message. Et ça, il l'a pas fait.
Ouais.
Et ça pourrait lui coûter son poste de leader du Parti conservateur. Ouais.
François, le temps file. Je veux qu'on se prenne 2-3 minutes pour parler du phénomène généreux. On n'analysera pas ou suranalyser la campagne, mais le phénomène généreux, parce qu'on peut parler maintenant d'un phénomène généreux ici dans la circonscription.
Il y a un phénomène généreux. Monsieur Massé a fait une véritable campagne. Il y avait une petite vague libérale au Québec. Le bloc n'aurait pas tombé d'autant de sièges s'il n'y avait pas au moins une... Mettons que la vaguelette était plus forte au Québec qu'ailleurs.
Oui.
Puis on avait un candidat, M. Massé, là, qui avait un excellent CV.
Il a quand même récolté 30%.
Il a passé la barre du 30%. Mais on n'est pas retombé dans une zone où ça chauffe. Il est pas retombé, mettons, à 225 voix là,
de
chauffer, Monsieur Généreux. J'ai encore des doutes, moi, sur la stratégie de M. Généreux, qui mettait beaucoup l'accent sur dire « Ah, j'ai une équipe ». Je pense pas que c'est un argument qui jette à terre beaucoup de monde. Les gens devinent bien que le prochain, si c'est pas M. Généreux un jour, va avoir une équipe puis il va se faire l'enquête pour que ce soit une bonne équipe.
Mm.
Cependant, il y a un truc qui a fait beaucoup. Il a répété sans arrêt « pendant ma campagne, j'ai fait le tour de toutes les municipalités ». Et là, j'ai repensé à mon expérience à moi. Il y a eu 2 élections où j'ai fait un peu plus que ce que les sondages régionaux laissait croire.
Ouais.
2011, où j'ai gagné, puis aussi 2015, où j'ai été plus en pourcentage quasiment 9 points au-dessus des sondages régionaux. OK? Et je